Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Erwan Lenoir, il est partenaire d'Altermind, des chroniqueurs à l'opinion. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, avec l'affaire EDF à la une de Challenge. Quand vous mettez l'affaire EDF, vous pensez à quoi?
On pense à cette énorme gâchis.
Ah oui.
Et je pense que c'est une affaire au sens affaire presque crapuleuse, parce que c'est un désastre, un tel désastre qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc on a mis le projecteur et le rétroviseur pour voir un peu comment on en est arrivé là, jusqu'à ne pas savoir comment on va passer. Alors le mois de décembre c'est bon, on nous a expliqué, le mois de janvier on ne sait pas. Donc c'est quand même, pour une grande puissance nucléaire, c'est quand même un peu curieux.
Le nouveau patron, il n'y a rien qui va. Quoi. Rien ne va.
Ah,
et
vrai.
En plus, il hérite des électriciens gaziers qui sont encore toujours un petit peu dans le spectre social. Enfin, c'est sûr que je comprends qu'ils aient eu du mal à trouver un patron pour une boîte pareille, avec le salaire capé à 450 000 euros imposé par François Hollande à l'époque de son quinquennat. Il y a des réactions. Hein. Franck m'écrit « Un jour viendra où l'on ne pourra plus faire de chèques. » Et ce sera catastrophique. Plus on fait d'échecs et plus on aggrave la situation. Un gouvernement qui n'est pas capable de trouver des solutions à part arroser avec des chèques doit céder sa place. Le problème, c'est qu'on a toujours fait comme ça. Et cet autre auditeur nous dit « Nous sommes dans un état économique schizophrène. Faites des économies et je vous aide à dépenser. » Il faut reconnaître que parfois, c'est assez vrai. On parlait de la réaction, enfin de la tentative. Pardon, qu'est-ce que vous
dites ? Puis on pourra ajouter un petit point là-dessus. C'est qu'on fait tout pour les consommateurs, mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont debout pour elle aussi demander à être aidée, hein. Pas notamment quand on voit ce qui se fait en Espagne, en Allemagne.
Vous diriez que on en fait trop sur la demande et pas assez sur l'offre.
Bah, tout à fait.
Oui. Alors on a fait beaucoup sur l'offre pendant le Covid, hein, quand même. La France était le pays où il y avait vraiment une politique de l'offre. Et bon, c'était peut-être disproportionné aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Que déjà, le chômage partiel, c'est à mi-chemin entre la politique de l'offre et la politique de la demande.
Et les marges des entreprises ne sont pas misérables, loin de là. Hein,
ça dépend lesquelles. Enfin, le problème, c'est qu'il y a une trop grande hétérogénéité entre les secteurs.
Mais là, enfin, on a entendu énormément d'appels au secours de la part de quantité de secteurs d'activité.
Bien sûr.
Notamment les boulangers, par exemple. Disant que...
Ah bah là, on revient à nos coupures d'électricité au mois de janvier. Je sais pas comment ça va se passer, parce que fabriquer une boulangerie, il y a que l'électricité partout, hein, dans le four, pour les réfrigérateurs, pour les mettre les éclairs au chocolat, la caisse. Donc vous arrêtez pendant 2 heures.
Mais ce qui est frappant, c'est que tous les chefs d'entreprise qui sont venus ici, avec qui j'ai évoqué, donc évidemment leur facture d'énergie pour 2023, avec des, vous les avez entendus, des chiffres qui donnent le tournis. Quand on leur dit risque de récession, le sujet qui les préoccupe, c'est le risque de coupure de courant. Et vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise, que ce soit un industriel, ou je sais que Thibault Langsat, par exemple, aussi, qui a des data centers, il dit, mais si nos data centers s'arrêtent, et là, on ne sait pas comment on fait, et dès la première seconde d'arrêt, c'est de la perte nette pour l'entreprise. Donc en fait, ces risques de coupure de courant inquiètent nettement plus les entreprises, d'ailleurs, que les ménages, qui savent d'ailleurs, dans le plan EcoWatt, avec ses 5 étapes jusqu'à d'éventuels blackouts, qu'ils ne sont pas les premiers concernés par une pénurie de courant si elle devait intervenir. J'ai eu d'autres réactions, je vais les lire avant. Erwan Tison, par rapport à cette potentielle réponse des 27 sur les mesures protectionnistes des Américains, parce que, comme le disait Erwan Lenoir, l'autre Erwan, pour l'instant, on est sur des postures à se demander un petit peu ce qu'on va faire, si on va trouver une position commune, et puis quels seront les outils de réaction, est-ce que c'est du acheté européen, est-ce que ça va être du bon vieux droit de douane, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il se passe quelque chose.
Il y a aussi un côté un peu paradoxal, on veut faire la guerre économique à la première puissance mondiale, mais on se pose la question si on n'aura pas des coupures de courant cet hiver. Bon.
Non, mais ça, c'est de l'ironie éditorialisante.
Pour rentrer dans le fond, le problème, c'est que bon, on a encore aujourd'hui un excédent commercial avec les États-Unis. Si c'est pour rentrer dans une guerre du protectionnisme, il faut savoir comment est-ce qu'on peut être armé. Il y a l'économiste argentin qui s'appelle Raoul Prebisch qui a beaucoup écrit sur le côté souveraineté industrielle, dans la souveraineté industrielle et le côté justement autonomie dans le cadre de différents protectionnismes. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à tirer son épingle du jeu, notamment en se basant beaucoup sur la théorie des jeux. Et en fait, on se rend compte, lui, sa finalité, c'est de dire que si jamais il doit y avoir guerre économique, il faut qu'il y ait absolument un avantage comparatif, réel. Et bon, en fait, il faut arriver à choisir sa propre dépendance et avoir une interdépendance claire sur des produits à très forte valeur ajoutée. Voilà ce qu'il disait clairement. Aujourd'hui, si du coup on veut faire la guerre économique aux États-Unis, qu'est-ce que nous on peut mettre en avant? Bah peut-être notre force commerciale, parce qu'au final on reste un marché, on reste un marché très attirant pour les États-Unis. Mais à part ça, je vois pas vraiment ce qu'on peut vraiment chercher à vouloir exporter que les Américains ne pourraient pas faire à 5 ou 10 ans. Donc avant justement de se lancer dans cette guerre-là, il faut savoir si on est armé. Donc ça pose aussi la question de la politique industrielle qu'on pourrait avoir ici sur notre sol européen, et en tout cas des certains avantages qu'on pourrait avoir. Dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un petit peu fou de justement se lancer dans cette guerre protectionniste-là, sachant qu'on n'a aucune arme pour pouvoir opposer justement un
conflit économique. Donc on laisse faire.
Je ne dirais pas qu'on laisse faire, mais après c'est aussi la question de, l'escalade. Les États-Unis ont des forces, notamment monétaires, que nous on n'a absolument pas.
On n'a pas le dollar.
Si c'est pour ce, on est, et puis il faut savoir aussi, enfin, faut quand même se rappeler que l'Europe est aussi aujourd'hui coincée en tenaille entre deux puissances qui se font la guerre justement pour le leadership mondial, qui sont la Chine concrètement et les États-Unis. Nous, dans cette force, dans ce conflit-là, on n'a pas encore les coussins d'amortisseurs. On est juste un énorme marché que les gens veulent se partager. Donc, si jamais on n'arrive pas à avoir justement ces armes-là et cette défense-là, bah, on court à notre perte. Donc, se lancer dans une guerre protectionniste qui ne fera qu'au final s'escalader, etc., je pense que le pragmatisme, des fois, n'est pas forcément une bonne chose. Et un petit peu d'idéologie libérale ne peut pas faire de mal.
Ouais, je suis d'accord. Entre ce que disent les bouquins, les théories, et puis ce qui se passe dans la réalité, là, je trouve qu'on a une démonstration que. Après, la bonne réponse. Ne crève pas forcément les yeux. Pierre-Henri de Menton, oui.
Moi, je suis très frappé de l'usage répété par Erwan du mot guerre, défense, armes. Il y a une guerre, il y a une défense, il y a des armes en Europe, hein, c'est en Ukraine, et c'est les Américains qui payent la facture, hein, 85-90%. Hein, c'est pas. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui se passait sous Donald Trump, hein, où on avait replié le parapluie. Donc le parapluie, et même sous Obama, donc le parapluie sous Biden, l'OTAN moribonde d'Emmanuel Macron n'existe plus. Donc l'Europe est complètement arrimée aux États-Unis d'un point de vue. Donc on voit mal l'Europe s'engager dans un conflit commercial avec les États-Unis en ce moment. C'est juste impossible, puisqu'on dépend entièrement d'eux. D'autre part, si on se met sur le terrain de la compétition économique, et on parlait de la politique monétaire, il y a un avantage comparatif quand même en ce moment très important de l'Europe, c'est le niveau de l'euro face au dollar. Les Américains se sont engagés dans une politique de dollar fort qui est bonne pour nos exportateurs. Donc d'où le côté excédentaire de la balance commerciale avec les États-Unis. Donc il faut faire un petit peu, je pense qu'il y a une visite d'État là d'Emmanuel Macron, c'est un privilège rare.
À novembre, début d'État, décembre.
Ouais. Ça a lieu cette semaine. Je pense qu'il faut prendre en compte les deux aspects. Il y a un aspect politique, diplomatique, et un aspect économique. Et si on ne parle que d'un sans évoquer l'autre, il nous manque une clé de compréhension.
Mais c'est vrai que le Sleepy Joe, il n'est pas si sleepy que ça, quand même. Parce que je disais, Erwan Tison, il y a effectivement ce que disent les bouquins, ce que dit l'histoire sur les périodes de protectionnisme. Ça se termine jamais bien, ça se termine toujours avec de l'inflation. Bien que là, ils pratiquent un nouveau protectionnisme, qui était d'ailleurs assez bien décrit par Anne-Sophie Alcy
vendredi. C'est la constante, quand même, de la politique économique américaine. Il y a des petites phases sous Clinton, des petites phases, on va dire, libre-échange, mais sinon, l'opinion publique américaine, elle est protectionniste, et les parlementaires américains.
Mais là, c'est un protectionnisme par la norme verte.
Oui, bien sûr.
C'est un prétexte fantastique pour eux.
Oui, mais on peut laisser nos entreprises, nos grandes multinationales européennes, notamment allemandes, décider que finalement c'est là-bas où elles vont s'installer, c'est là-bas où elles vont investir, parce qu'elles vont bénéficier des subventions américaines en étant sur le sol américain, elles vont bénéficier d'une énergie 3 à 4 fois moins chère, et qu'à ce moment-là, on a une nouvelle forme de délocalisation.
Sur le côté énergie, je serais plus nuancé, parce que le coût de l'implantation d'une entreprise de l'Allemagne vers les États-Unis aujourd'hui est encore beaucoup trop fort pour bénéficier de la réduction sur l'énergie. Puis ça reste quand même quelque chose d'assez fluctuant. Il y a 3 ans, c'était beaucoup plus intéressant en Europe que ça pouvait l'être là-bas. Et puis quand on aura vraiment une taxe carbone qui frappe vraiment notamment les émissions de CO2, je pense que le gaz de schiste américain sera beaucoup moins intéressant que le nucléaire européen. Mais ça pose encore la question justement de qu'est-ce qu'on veut aussi sur notre territoire. On n'arrête pas d'avoir des injonctions paradoxales. On n'arrête pas de se battre entre Européens, entre les Espagnols qui disent que le projet de réforme justement du marché de l'énergie est absurde. Les Allemands qui veulent surtout pas entendre parler justement de remettre en place la taxation marginale sur le gaz, et les Européens qui victimes, enfin en tout cas pardon, les Français victimes de leur, comme le dit très bien la Une de Challenge, victimes de beaucoup d'injonctions paradoxales, ont cassé le seul joyau, l'avantage comparatif qu'on avait chez nous. Bah du coup, il faut peut-être remettre aussi un peu d'ordre. Je dis pas que tout, par pure idéologie libérale, il faut dire tout va bien, Madame la Marquise. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que il faut pas non plus rentrer dans une guerre. Quoi. De toute façon, on sait qu'on va perdre. Alors j'utilise le mot guerre, dans un conflit économique que l'on sait que de toute façon on va perdre, dans une controverse. Rappelons-nous justement de la guerre du pneu sous Obama. Hein, sous Obama.
Alors, ça va très très bien. Il a fait une guerre contre les pneus chinois.
Exactement. Ouais. Et on a vu qu'au final, tout le monde était perdant derrière, que jusqu'au consommateur.
Et là, c'était une vraie guerre classique à coup de droits de douane.
C'est ce qui va se passer, parce que si le droit de douane, c'est ce que quand vous êtes justement dans un conflit protectionniste, c'est quelque part votre dernière arme en dernier ressort.
Oui, c'est ça.
Jamais vous avez pas l'innovation, vous avez des produits à très forte valeur ajoutée. Alors, c'est très facile de dire ça sur le plateau de BFM Business, de ma position juste d'observateur, mais si vous avez des produits de très forte valeur ajoutée qui sont essentiels dans la chaîne de valeur américaine, et ben là, dans ces cas-là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu moins vindicatif sur sa politique et sur son ambition normative.
Bon, en tout cas, quand je vous écoute, on a déjà perdu, quoi. Ils ont déjà gagné.
Non, pas du tout, parce que sur les.
Bon, on a prévu quand même une taxe aux frontières en Europe, hein, ouais. Sur des normes vertes, hein, et sociales et sociétales.
Donc, pas sur le Chips Act, peut-être qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu là-dessus. On ne sait pas ce qui va se passer, notamment dans le bloc asiatique qui produit aujourd'hui énormément de ces puces-là. Peut-être que nous, on va au final avoir une conjonction de facteurs qui fait qu'on va être le premier producteur de puces à 10 ou 15 ans. J'en sais rien. Peut-être qu'on va être les leaders sur la prochaine ressource. Peut-être que le lithium qu'on va extraire dans le Massif Central sera le plus fort gisement qu'on aura au niveau mondial, on ne sait pas. Donc, mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut ne se fermer aucune porte, ne surtout pas se dire c'est bon, on a le droit de douane, quoi qu'il arrive, on va pouvoir gagner là-dessus. Ouais.
Alors, c'était Christian Parizeau qui rappelait quand même que si on veut effectivement tout ce que vous venez de décrire, ça va aussi avec la pollution qui accompagne. Ouais, c'est parce que aller exploiter du lithium dans l'Allier, c'est très bien, mais enfin l'exploitation de lithium, c'est pas super propre. Mmh. On est bien content de voir arriver le gaz naturel liquéfié des Américains sans avoir les puits d'extraction de gaz de schiste et de pétrole de schiste.
D'autant qu'il est exploité. Hein, je vous rappelle que le premier producteur de GNL aux États-Unis, c'est Total Energy. Hein.
Ah bon ?
Bah oui, aux États-Unis. Ah oui, oui, tout à fait. Oui.
On dit bon, il est quoi ? 14 minutes. On va se dire un mot sur le sujet un petit peu plus léger de cette matinée. Enfin léger, je sais pas d'ailleurs. Mais c'est Bruno Le Maire qui dit bah oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup recours à des cabinets de conseil, notamment en 2021 où là la facture annuelle a quand même touché le milliard d'euros. Un milliard d'euros pour des études commandées à pas que McKinsey. Hein. Je crois que c'est le 18e des cabinets de conseil sur l'ensemble des cabinets de conseil auxquels l'État fait appel. Donc il faut pas penser qu'à celui-là. Mais en tout cas voilà, beaucoup de cabinets de conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Henri de Menton, là, le mea culpa, ou en tout cas le gouvernement qui fait amende honorable sur ce sujet après avoir un peu balayé l'histoire au moment de la campagne présidentielle, c'était en train de polluer quand même la tentative de réélection d'Emmanuel Macron, et qu'il a dit c'est vrai qu'on appuie un peu trop sur le.
Voilà, alors d'abord McKinsey, c'est le coupable parfait, hein, c'est américain, c'est la firme. Oui. On avait eu BlackRock avant, on a eu Goldman Sachs, donc c'est impeccable. Les principaux cabinets de conseil, ils sont français quand même, hein, c'est des gens comme Capgemini, etc., les principales factures, ce qui est bien normal, hein, puisque c'est des systèmes informatiques, de numérisation, etc. À chaque fois, on parlait de la plateforme Bouygues Énergie, ben, y a un cabinet de conseil qui s'occupe de ça, avec des agents de l'État, mais il est certain qu'il faut un renfort pour monter ce genre de chantier.
Quelquefois, on est allé un peu loin.
Qui marche pas toujours bien, hein. D'ailleurs, il y a des grandes catastrophes qui se passent. Donc voilà, après, la déclaration de Bruno Le Maire, pour moi, elle est 100% politique. 100% politique. C'est un animal politique. Donc ça lui permet de faire un petit pas de côté, de contrer des coups qui pourraient venir, parce que j'imagine que Bercy n'est pas le dernier à faire recours à des cabinets de conseil.
Il indique que justement, ils ont baissé de 3% voilà. Leur commande.
Donc voilà, il faut le lire, je crois, avec des lunettes de politicienne. Chacun joue sa partition. Darmanin est en ce moment le très bon élève. Lui, il prend un petit pas de côté. Voilà, Gabriel Attal, vous l'avez vu aussi, se positionne sur Paris, sur les classes moyennes. Donc, c'est toutes les écuries qui sont en train de se mettre en place. Et c'est un sujet qui, effectivement, est bien repris par les médias, les réseaux sociaux. Donc, pourquoi se priver ?
Mais enfin, c'est vrai que, enfin, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, l'un des deux Erwan, 1 milliard en 2021 de recours à des cabinets de conseil. Peut-être que souvent, les ministères ont cédé à la facilité quand même. Hein.
On a eu ce débat mille fois, mais juste un chiffre. Je crois que c'est les trois quarts de dépenses justement de ces cabinets de conseil-là, c'est des services informatiques directs.
Alors pour beaucoup, c'est vrai, oui, ce sont des numérisations.
Et McKinsey représente 1% de la commande.
Oui, mais après, je pense qu'il y a certaines choses que l'administration en crise, comme on était dans cette année-là du milliard, on était quand même. Je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait au point pour mettre en place en quelques semaines, quelques jours, une stratégie et qu'on a parfois besoin de conseils extérieurs. Donc c'est pas tout à fait. L'année, elle est, me paraît pas non plus complètement neutre, où on a une situation de crise intense que les administrations centrales ne sont pas forcément habituées à gérer.
Oui. Vous vouliez rajouter un
peu. Juste deux mots. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces grands cabinets anglo-saxons et autres, ils sont beaucoup plus rétifs à travailler avec l'État. Donc, en tout cas, beaucoup plus prudents. Donc, il y a peut-être une perte de compétences pour l'État. Ce qui se faisait appel à, au-delà des éventuels excès, je pense qu'ils étaient marginaux. Si l'État fait appel à des cabinets de conseil, c'est qu'il en a besoin, notamment parce qu'il y a une souplesse dans l'action. Qu'embaucher une équipe de consultants pour trois mois, c'est pas la même chose qu'embaucher ou former des hauts fonctionnaires qui soient capables de faire les mêmes missions. Puis il y a deux questions qui se posent, c'est la procédure de passation des contrats, là il y a de la mise en concurrence, et après il y a ce qu'on fait ou pas de l'externalisation. Après tout, il n'y a pas la moindre raison que tous ces sujets-là soient traités dans l'État, par des fonctionnaires, de manière permanente. Au fond, on devrait au contraire avoir une logique de démultiplication des appels au cabinet de conseil. Et pour Bruno Le Maire, évidemment, comme le disait Pierre-Henri à l'instant, la perspective, c'est les uns et les autres au sein du gouvernement commencent à se préparer à 2027. Et donc, on sait qu'il y a des sujets à évacuer, il y a d'autres sujets à faire monter, et ça en fait sûrement partie.
Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu l'opposition sur le sujet, parce que c'est des pratiques qui remontent à très longtemps, hein, l'utilisation des cabinets de conseil. Et d'autre part, les collectivités locales y ont beaucoup recours aussi. Hein, donc voilà, si on commence à soulever le capot non seulement de l'État, mais aussi des métropoles, des conseils régionaux, départementaux, etc., ça risque d'être un peu compliqué. Donc d'où quand même une certaine prudence, on va dire, de l'opposition sur le sujet.
J'ai un auditeur qui m'écrit, quand l'Élysée dépense 1 milliard d'euros, enfin l'Élysée, gouvernement, cabinet de conseil en 2021, quelle crédibilité pour nous dire de fermer la lumière en sortant. Les cabinets de conseil, bon, principalement, ce qui se passe derrière, c'est quand même le fait qu'il y ait des enquêtes qui ont été ouvertes pour savoir le rôle, cette fois-ci, vraiment du cabinet McKinsey, le rôle qu'il a pu jouer de près ou de loin au moment des campagnes présidentielles. On verra ce que la justice indiquera à l'arrivée. J'ai pas lu la chronique Erwan Le Nant aujourd'hui, parce que vous veniez, je me suis dit, tiens, comme il est là, je vais lui demander de nous raconter ce qu'il veut dire. On vous lit régulièrement dans l'opinion, et aujourd'hui, vous signez une chronique, elle est en page 6 du quotidien. Pourquoi diable y a-t-il des riches, point d'interrogation? Quel est le message que voulez-vous nous dire?
Oui, tous les lundis dans l'opinion, aujourd'hui, deux messages. Le premier, c'est un, parce qu'on ne cesse d'entendre régulièrement, je ne sais pas quelle était la semaine dernière, encore des dénonciations des riches qui s'en mettent plein les poches, etc. Le premier point, c'est rappeler ce que tout le monde sait ici, la France, c'est l'un des pays les plus égalitaires de tout le CDE, si ce n'est le plus égalitaire avec le plus haut taux de redistribution. Deux, qui sont les riches aujourd'hui au XXIe siècle? Et en fait, ce que montrent les un certain nombre d'études et d'éléments, c'est que ce ne sont pas du tout des rentiers comme on l'entend, les ultra-riches. Les ultra-riches sont des fortunes qui sont constituées, en gros, dans la mondialisation et dans l'économie numérique. En fait, des gens qui se retrouvent très très bien payés dans une poignée d'entreprises qui profitent de la mondialisation et de la numérisation ou qui innovent. Et donc, en fait, on a aujourd'hui les 1% ou les 0,1% des gens très riches sont des gens, et notamment en France et aux États-Unis, qui, beaucoup plus que dans les années 80, sont des gens qui ont réussi leur carrière, qui ont contribué au développement de l'économie et donc globalement contribué à l'économie de manière générale. Et quand on nous parle de rentiers, en fait, on désigne en général, dans le classement de Forbes, je crois, on cite Bernard Arnault en disant que c'est quelqu'un qui est un héritier, il a hérité d'une entreprise, si je ne me trompe pas, de son père, qui était de très très loin, pas LVMH. Et donc vous avez voilà. Et donc il y a de quoi il y a hérité. Enfin, il y a hérité. Et on a vu aussi dans le capitalisme français qu'il y a des héritiers qui sont capables de dilapider rapidement une immense fortune. Donc hériter, c'est aussi être capable de faire croître un groupe. Et donc en réalité, aujourd'hui, les riches ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend dans les publics, les ultra riches, des rentiers qui foutent rien. Sont des gens qui ont innové, qui apportent énormément à l'économie mondiale.
Et puis quelquefois, un patrimoine peut être très volatile. Vous avez vu que Elon Musk
exactement.
A perdu 100 milliards de dollars depuis. Enfin, depuis le début de l'année, oui, parce qu'une énorme partie de son patrimoine. D'ailleurs, ça m'amène à vous poser la question, parce que on en parlait, c'était jeudi. Il y avait notamment Philippe Martin qui était là, il y avait Éric Heyer, il y avait Jacques Delplat, et ils ont soumis l'idée que, à circonstances exceptionnelles, il fallait un impôt exceptionnel sur les plus riches. Ça vous choquerait qu'on vous dise, ben, pendant 12 mois ou 24 mois, le taux marginal de l'impôt sur le revenu va passer de 45 à 55%.
Moi, ça me...
Pierre-Henri de Menton.
Personnellement, ça me choquerait pas.
Vous vous souvenez quand le FMI, en pleine crise, avait dit qu'il faudrait mobiliser 10% du patrimoine mondial
bien
pour
sûr.
Sortir de cette
chirlie,
on va dire.
Oui, et il y a une sorte de quand même de consensus qui se dégage autour de ça, hein, quand on voit les super-profits, etc. Alors, c'est le projet de taxe sur les super-profits, bon, il est limité à l'industrie pétrolière, mais on voit... la France est extrêmement réticente et Bruno Le Maire justement en particulier. Moi, ça me choquerait pas. Alors, il y a un petit problème quand même sur, mais là, c'est un problème presque ontologique sur. En fait, ces profits, on vient de le dire, ils sont pas faits en France du tout. Très très peu. Les profits d'un LVMH, le marché français ou d'un L'Oréal, donc famille Bettencourt. Alors c'est peut-être différent pour les Dassault par exemple, mais où la famille Pinault, c'est des multinationales vraiment. Alors ponctionner en France un revenu mondial, c'est toujours compliqué. Donc,
mais là on pense au revenu des personnes physiques. Hein.
Non, mais c'est un super ISF. Mais c'est quand même voilà, il y a quand même un petit problème de voilà. Alors je souscris pas tout à fait quand même à la théorie du ruissellement, mais je pense qu'il y a quand même un moment où il faut rendre. Alors ces grandes fortunes, sont bien sûr payées des impôts. Elles restent attachées au territoire, quoique elles ont un savoir-faire en matière fiscale qui est pas tout à fait celui des personnes lambda, qui fait que en proportion, les montants ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a un moment, sans aller jusqu'au giving pledge américain, il faut que les riches, pour rester arrimés à la société, un minimum, rendent une partie de... Puisque c'est quand même... ces fortunes-là, elles existent parce que la France existe. Et ils vendent l'image de la France, hein, en tout cas, toute l'industrie du luxe, par exemple.
Sur l'histoire des super-profits, le gouvernement a réussi à éviter le mot taxation et l'arme fiscale pure, puisqu'on a utilisé des éléments contractuels correspondant aux rentes dites inframarginales qui imposent aux producteurs d'énergie hors gaz de reverser leurs gains passé un certain prix du mégawatt-heure. On n'a pas encore eu ce débat là à l'Assemblée sur une taxe exceptionnelle.
Alors il y a un débat incroyable sur à la commission. Vous écoutez la Commission européenne dans le.
Ah mais on en parle.
Dans le budget, c'est 200 millions, je crois, les super profits. Vous écoutez Deloitte ou la Commission européenne. C'est entre 3 et 6 milliards. Donc il y a un petit problème quand même de quelle est la base fiscale de cette taxation sur les super profits. Hein. Il y a visiblement un petit malentendu entre Bruxelles et Bercy.
Alors moi j'ai vu sur l'histoire des gains de la rente inframarginale, on est à 11 milliards d'euros hein, en 2020.
Oui, c'est ça, mais ce n'est pas du tout les chiffres, c'est pas du tout ce qui est prévu dans les recettes fiscales. Hein. Vous regarderez, ça n'a juste rien à voir. Donc il y a un petit sujet là pour vos prochains experts.
D'accord. on a 3 minutes, Erwan Tison. Alors, le Conseil national de la refondation, je ne vais pas vous demander votre avis sur le Conseil national de la refondation, joliment baptisé CNR, bien sûr. Il entame aujourd'hui une réflexion sur le logement. Je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que c'est quand même vraiment un sujet qui est souvent absent du débat public, qui est souvent survolé, et qui est pourtant un sujet central. Et ça a retenu votre attention.
Oui, c'est l'un des trois mots de notre économie française. Hein. Il y a l'éducation, le logement et l'innovation.
Ah, j'avais école, effectivement, et logement. Je ne pensais pas innovation numéro 3.
Innovation, parce que c'est ça qui permet la prospérité à venir. Et malheureusement, aujourd'hui, on reste assez mauvais. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question structurelle.
Avant l'innovation, mais l'investissement, dans ce cas-là. Parce que...
On peut aussi, mais il n'y a pas que ça, une question normative aussi. Mais on aura l'occasion, ce sera un sujet pour une autre émission.
Le logement, aussi. Logement.
Sur le côté logement, il faut savoir que c'est un des secteurs qui est le plus lucratif pour l'État. Hein. L'État, ça coûte environ 20 milliards de subventions en APL. Shell, l'aide à la pierre, etc. L'État récupère à peu près 45 milliards d'euros par an. Donc c'est 25 milliards d'euros de bénéfices, on va dire, pour l'État. Là aussi, c'est peut-être un super profit. Donc il faudrait réfléchir à la pertinence.
Ça sera un bon débat, ça.
Et c'est surtout...
L'État doit-il rendre les super profits du logement?
Et c'est surtout un des secteurs qui est le plus dysfonctionnel. Juste deux petits points. Le premier, c'est sur la localisation des biens. On voit effectivement qu'il y a aujourd'hui tout simplement une pénurie de biens là où l'activité se situe, et il y a une abondance de biens là où il n'y a pas d'activité économique. Deuxièmement, c'est sur le logement social, qui pour moi est un scandale absolu. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les critères d'attribution des logements sociaux, on a aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup trop lâche. On a 73% de la population française qui est éligible à un logement social par rapport à son revenu, et on a 47% des personnes du premier et du deuxième décile, donc concrètement les plus pauvres de ce pays, qui sont obligés de se loger dans le parc privé, là où les prix des logements sont en moyenne 60 à 70% supérieurs dans certaines zones par rapport aux logements sociaux, parce qu'ils n'ont pas de logements sociaux. À l'inverse, vous avez plus de 180 000 personnes qui logent dans des logements sociaux qui gagnent plus de 80 000 euros par an. Mais qui du coup ne peuvent, et eux qui pour le coup font partie des premiers déciles. Là, je ne vais pas faire la chasse aux plus riches ou quoi que ce soit. C'est juste de se dire, on a un outil qui théoriquement, le logement social est absolument extraordinaire d'un point de vue amortisseur social, et on l'a complètement dévoyé parce que justement il y a énormément de rentes, parce que on ne veut pas toucher justement à certains critères, et qui fait qu'aujourd'hui il est profondément inefficace et profondément injuste pour ces profils-là. Si jamais vous réglez la question du logement. Donc je rappelle, hein, c'est 70% des dépenses contraintes, quel que soit votre niveau de revenu. Seulement, c'est 100% de ces dépenses contraintes, c'est du loyer quand vous êtes dans les premières tranches, et c'est beaucoup de remboursement de prêts quand vous êtes dans les dernières. Vous avez un âge d'accès à la propriété qui a grandi de près de 13 ans en l'espace de 40 ans. Hein, maintenant, c'est 37 ans l'accès à la première propriété. On était à 24 ans. Quand on était dans la génération des boomers, vous savez, ceux qui gagnent aujourd'hui 5% de plus que les actifs, ils avaient l'accès à la propriété beaucoup plus jeune. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, vous êtes propriétaire de plus en plus tard, avec un logement qui est de plus en plus petit. Et donc, du coup, vous avez une part du logement qui est de plus en plus forte dans vos dépenses pilotables et non pilotables. Et donc, du coup, aujourd'hui, le logement reste un fardeau énorme, alors qu'avant, c'était un outil d'émancipation. En plus, il fixe les populations, malheureusement, dans des endroits où ils ne veulent pas. Donc, du coup, on rend les populations tributaires et presque esclaves de leur voiture, et donc du coup des variations du prix de l'énergie, et donc du coup on est obligé de faire derrière des chèques pour compenser ce mécanisme qui à la base est juste un problème de localisation des personnes. Donc du coup j'espère que le CNR réellement fera ces constats-là. Nous on a 1000 propositions, on a 1000 chiffres à leur montrer et à leur donner.
Débat primordial totalement absent des élections présidentielles.
Totalement.
On en a parlé ici.
Alors que c'est le sujet de préoccupation numéro un des Français.
C'est alors non, c'est 13e selon les études, mais quand on regarde tous les autres sujets qui sont la mobilité, qui sont le pouvoir d'achat, etc., c'est typiquement lié au logement.
On avait dit ici pendant la campagne qu'il y avait quand même deux sujets clés qui devaient absolument être en tête de mon œil, c'était l'école et le logement. J'avais pas mis l'innovation, c'est vrai. Et bon, voilà, le CNR va travailler. Alors, effectivement, j'espère qu'ils vous auront entendu. Peut-être qu'ils vont pouvoir contacter Sapiens pour avoir.
Tout est sur notre site internet en libre accès. Donc.
Mais c'est des sujets qui ne touchent pas les élites.
C'est probable, c'est très probable. Merci en tout cas Erwan Lenoir d'avoir été là. Pierre-Henri de Menton à la une de Challenge. L'affaire EDF, c'est encore en kiosque cette semaine. Et Erwan Tison, rendez-vous demain à 9h.